Le collectif Arajois pour le climat a organisé mardi dernier une conférence débat autour du thème « Le dérèglement climatique, quoi de neuf ?». Pour cela, c'est un climatologue de renom, Jean-Louis Dufresne, également chercheur au CNRS et directeur de recherche au laboratoire de météorologie, qui a été invité pour animer cette conférence et qui permet de comprendre un peu mieux l'urgence climatique. Avant de le retrouver en interview, je vous propose d'écouter Jean-Michel Damien du collectif Arajois pour le climat, qui nous rappelle le pourquoi du comment de ce collectif. Pouvez-vous nous rappeler brièvement un peu comment est né ce collectif et qu'est-ce qui se passe avec ce collectif justement ?
Alors le collectif est né une fois d'une initiative entre quelques membres de deux ou trois associations. Il y avait Nord Nature, il y avait Attaque au Secours. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas se regrouper par rapport à aux questions du changement climatique hein, et pourquoi ne pas travailler ensemble. Et donc à partir de là, on a contacté la quasi-totalité des mouvements locaux, un syndicat, parti politique et association environnementale. Et puis c'est parti de là, on a organisé une assemblée générale et on s'est déjà réunis deux fois depuis.
Et vous êtes à peu près combien mobilisés dans ce collectif ?
C'est difficile à dire puisqu'il y a plusieurs associations. Il y a évidemment toutes les personnes individuelles qui souhaitent venir, il y en a pas mal déjà, sans appartenir à un mouvement, peuvent évidemment intégrer, elles sont les bienvenues. Mais il y a aussi les associations qui regroupent, toujours plusieurs personnes, associations ou mouvements. Dernière assemblée générale, je ne sais pas, on était environ 20 à 25, quoi. Hein.
On retrouve Jean-Louis Dufresne pour évoquer avec lui, entre autres, les enjeux de cette conférence, le constat permanent du dérèglement climatique et comment on s'y prend pour justement aborder ces alertes climatiques. Donc vous êtes là ici aujourd'hui à Arras pour une conférence, le dérèglement climatique, quoi de neuf ? Vous êtes climatologue, on sait que les rapports du GIEC qui sortent chaque année sont de plus en plus accablants. D'abord peut-être, pour recontextualiser, peut-être que les auditrices et auditeurs ne connaissent pas exactement ce que fait le GIEC. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu ce que ça signifie ?
Alors le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental sur l'étude de l'évolution du climat. Et ce qu'il fait, c'est régulièrement, alors tous les 6 ans, de façon très régulière, plus éventuellement des rapports spéciaux, un état de l'art, l'état des connaissances sur la question du changement climatique. Il fait ça depuis les années 90.
Quelles vont être les thématiques principales que vous allez aborder pour cette conférence ?
Alors, disons ce que j'ai essayé de montrer, c'est que bon, maintenant sur le changement climatique, il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà et qu'il y a des conclusions fortes qui se renforcent au cours des années sur le fait que ça se réchauffe, que c'est des activités humaines, qu'il y a un certain nombre d'événements extrêmes qui seraient associés à ce réchauffement, etc. Et que c'est dû aux émissions, principalement dû aux émissions de CO2. Donc ça, c'est des choses extrêmement robustes. Et puis après, je parlerai aussi de la montée de l'océan, les nouvelles connaissances qui sont faites dessus ces dernières années. Et puis aussi sur le fait que les accords de Paris ont changé quand même la donne en termes de politique, ont donné un cadrage assez précis. Et bon, alors pour l'instant, malheureusement, il n'est pas suivi, mais disons qu'il y a en tous les cas des cibles politiques très claires données par les gouvernements eux-mêmes.
J'imagine, en parlant évidemment de politique, que vous n'êtes pas un adepte de Donald Trump, qui a encore sorti récemment une petite phrase un petit peu loufoque en disant que suite à la vague de froid qui avait eu lieu aux États-Unis, il s'était demandé où est-ce qu'il était le réchauffement climatique.
Oui, alors ça c'est des arguments tout à fait classiques, j'allais dire. Le réchauffement, ça n'empêche pas qu'il continue à faire froid de temps en temps. Et même, bon, bref, je pourrais revenir là-dessus, ça n'empêche pas. Les événements froids, même s'ils se réduisent en nombre, ils vont continuer à exister. En tous les cas, c'est ce que dit le GIEC depuis des années. Donc disons, il n'y a pas du tout de contradiction entre le fait qu'il y ait un réchauffement global et qu'il continue à y avoir quelques événements froids, voire trois froids. Mais en fait, leur fréquence, ce qu'on peut montrer, c'est que leur fréquence diminue. Donc alors Donald Trump, c'est très présent, c'est un problème politique majeur. Aux États-Unis, la société est très clivée hein, à ce niveau-là, et donc c'est extrêmement, comment dire, il y a vraiment deux camps qui s'affrontent là-dessus. Pour l'instant, au niveau international, ça n'a pas trop influencé. Alors maintenant, il faut voir avec le Brésil, la Russie. Mais au début, les premières COP après la COP de Paris, disons, en tous les cas, ça reste... Les gens, globalement, les pays, globalement, ne remettent pas en cause leur participation et le fait d'avoir signé les accords de Paris.
Quand vous étudiez justement ces effets du réchauffement climatique et du dérèglement climatique, comment ça se passe? Avec de quels appareils vous servez? Qu'est-ce que vous observez et comment vous arrivez justement à constater que ça ne s'améliore pas et que ça ne s'améliorera pas?
Alors on a toute une panoplie d'outils. Alors on a à la fois des mesures de terrain, des grandeurs météorologiques, des concentrations des gaz à effet de serre sur le terrain, donc en mer, sur terre, mais aussi par satellite. Par satellite, on arrive à voir pas mal de choses. Alors bien sûr, l'avantage c'est que c'est une couverture globale. Et puis associé à ces observations, on fait aussi beaucoup de travail de modélisation pour comprendre ce qui se passe, l'extrapoler à l'échelle globale, comprendre les mécanismes. Donc il y a toute une panoplie d'outils à la fois de modélisation, d'observation, de considération théorique. Et on croise tout ça pour essayer de comprendre, de faire des hypothèses sur qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, comment ça pourra se passer dans le futur, etc.
Il y a les animaux également la flore aussi, la flore, la faune qui sont importants pour justement voir ces effets. Est-ce que vous les étudiez aussi ou vous êtes en collaboration avec d'autres personnes qui justement vous alertent aussi sur ce fait-là?
Alors oui, c'est pas mon champ de compétences, mais effectivement il y a pas mal de gens maintenant, de plus en plus, qui travaillent sur ces questions-là. Qui est très très importante sur la migration des espèces associées au changement climatique. Donc ça, à nouveau, c'est des migrations qui sont observées ou des changements dans la saison, des fleurs qui éclosent plus tôt, un certain nombre d'oiseaux qui migrent différemment, des insectes, etc. Donc oui, il y a un énorme champ de recherche là-dessus et qui fait le lien en fait entre la question du changement climatique et la question de la biodiversité.
On remarque aussi que les premières choses qui peuvent alerter le plus rapidement possible, c'est la fonte des glaces, les banquises, les ours polaires aussi qui se déplacent de façon différente. Est-ce que ça s'aggrave vraiment très très fort depuis quelques années ou finalement ça se stabilise un peu ?
Non, ça ne se stabilise pas. Alors il y a eu un minimum de glace de mer en 2012, donc c'est le minimum qui n'a pas été égalé depuis. Mais si on regarde la pente sur plusieurs années, l'extension de la glace de mer en Arctique, dans l'hémisphère nord, continue à diminuer. Alors dans l'hémisphère sud, c'est différent, elle ne varie pas beaucoup, elle oscille au fil des années. Et les modèles prévoient qu'elle diminuera un peu, mais beaucoup moins. Le plus gros problème, c'est en fait dans l'hémisphère nord, où elle a déjà réduit, alors suivant les années, de 30 à 50% par rapport à ce qu'il y avait il y a un siècle. Et tous les modèles, toutes les simulations numériques, et puis même des considérations théoriques, montrent que cette diminution, elle risque de continuer fortement. Et on pourra avoir, alors justement, entre la fin du siècle et le milieu, et la fin du siècle, une disparition de la glace de mer en été si on fait rien.
Comment vous arrivez à sensibiliser, informer les gens qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui est technique au niveau du dérèglement climatique et à leur niveau peut-être ne le voient pas parce qu'ils ne le vivent pas?
Alors, il y a tout un travail qui est fait, donc à travers les milieux associatifs par exemple. Nous-mêmes, le GIEC est quand même connu, il y a pas mal de journalistes qui s'occupent de la question. Il y a quand même régulièrement, la COP21, il y a eu pas mal de communication autour, donc je pense quand même que les gens, une bonne partie, sont sensibilisés à cette question. C'est sûr que moi je vois bien, depuis 10 ans, les choses changent vraiment. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, la question du changement climatique, c'est quand même quelque chose qui est intégré, sur lequel ils considèrent que c'est une question importante à traiter. Donc il reste des avec l'explication, parce que le problème c'est que c'est un phénomène qui est très compliqué, très mélangé, et puis il y a de la variation du climat liée aux activités humaines, il y a aussi la variabilité naturelle, comme la vague de froid par exemple aux États-Unis, c'est des phénomènes naturels extrêmes, disons, liés à la variabilité, donc il y a plein de choses à expliquer, mais moi je trouve que dans l'ensemble, la population, les gens qu'on rencontre sont curieux, demandeurs d'informations et réceptifs à ce qu'on leur donne.
Il y a évidemment le dérèglement climatique au niveau international, au niveau national, mais au niveau local, comment justement, qu'est-ce qu'on peut faire nous, citoyens, au niveau local pour essayer de participer ?
Alors moi, j'ai pas de recette générale, mais ce qui est à peu près sûr, ce qu'on est à peu près tous de plus en plus convaincus, c'est qu'il y a d'une part les échelles globales, gouvernementales, etc., où il y a des grandes décisions qui sont prises et autres, mais la problème, c'est le médecin en action, j'allais dire. Et ça, je pense que l'échelle locale est importante à plusieurs niveaux. Un, à rentrer dans le concret, hein, de faire des choses très concrètes. Et deux, aussi, à en parler à son député, son maire, etc., pour que cette préoccupation passe. Hein, parce que les gens, disons, qui sont les intérêts qui résistent au changement, aux réformes nécessaires pour pallier au changement climatique sont forts. Et s'il n'y a pas de contre-pouvoir de l'autre côté, de gens qui disent que oui, ils veulent faire quelque chose, il ne se passera rien. Donc de ce point de vue-là, alors, au milieu associatif, ici par exemple à Arras, il y a un collectif qui s'est monté. Je pense que c'est vraiment important que justement par l'action locale, les choses prennent, à la fois les gens s'impliquent dedans, regardent ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, passent le flambeau, discutent avec le maire, le député, et puis que voilà, que ça prenne, et que ça localement, s'il se passe une seule chose localement, ça sert à rien, mais s'il se passe localement partout, il se passera quelque chose.
Il y a des scientifiques qui pondent des thèses comme quoi finalement la planète s'adapte au dérèglement climatique, mais c'est à cause de nous que nous n'arriverons pas à nous adapter. Vous en pensez quoi ?
Oui, la planète en tant que planète, elle a évolué, etc. Et la vie a évolué là-dessus. Oui, c'était très différent. La question, effectivement, c'est pas que la planète elle-même. La planète survivra. Mais c'est le rôle de l'homme, de la biodiversité, des plantes, le monde tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est lui qui va changer. D'accord, c'est le monde autour de nous, à la fois vivant, vivant au sens plantes, etc. Donc c'est un monde différent. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on ne connaît pas ce monde-là. Hein, c'est ça la question, en fait. Disons, si on remonte dans le dernier million d'années, la période la plus chaude, on pense, a été à peu près la même température que maintenant, il y a 120 000 ans. Dernier interglaciaire qui était un pic, et puis après, sinon, font monter à des millions d'années. Donc, c'est-à-dire que la Terre, elle sera très différente, les plantes ne seront pas au même endroit, ça ne sera pas les mêmes, les pluies ne seront pas au même endroit, donc les déserts ne seront pas au même endroit, etc. Donc voilà, ça sera un autre monde. Quand on voit la fragilité, j'allais dire, de la vulnérabilité de la société humaine à un événement extrême, un ouragan, une tempête, etc., changer complètement le climat, c'est juste énorme, quoi. Donc oui, en fait, c'est l'homme et la vie associée sur Terre qui sera impactée par le changement climatique dans son ensemble.
Et mes deux dernières questions parlent un peu du mouvement social qui est en train de naître, qui gronde et qui grandit de plus en plus. Alors, il y a le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, où à la base, c'était contre la hausse des carburants, le carburant qui est un peu l'ennemi aussi du climat. Et certains Gilets jaunes, évidemment, ne pensent pas du tout à l'écologie. Et il y avait un grand débat à Arras samedi dernier. Et l'écologie, apparemment, ça ne les intéresse pas. Pourtant, ça faisait partie des tables rondes. Vous en pensez quoi ?
Je ne suis pas un sociologue, etc. Mais ce qui est, la façon dont je le perçois, c'était lié au début au prix du carburant, mais c'est beaucoup une question de justice sociale. Hein, que quand même, quand on écoute ou on lit, en tous les cas dans les journaux, on écoute dans les médias, hein, ce qui ressort de ces revendications, c'est beaucoup une revendication de justice sociale. Et ça fait très longtemps que tous les gens qui travaillent sur les questions de changement climatique, d'adaptation et d'atténuation, disent attention, ça va coûter de l'argent, ça va falloir changer les choses, et donc il faut absolument que ça soit très bien accompagner socialement, expliquer et pourquoi, et de montrer que c'est pas toujours les mêmes qui sont les perdants, etc. Donc ce qui est extrêmement important de mon point de vue, hein, c'est justement d'intégrer, ne pas prendre une réforme totalement isolée comme ça, indépendant du reste, mais d'avoir une discussion globale là-dessus, et puis qui ne vise pas une classe sociale particulière, mais qui intègre tout l'effort de toute la nation. Et je crois que la démission de Nicolas Hulot était complètement dans ce sens-là.
Et enfin, il y a un mouvement qui grandit aussi et qui fleurit un peu partout, notamment en Belgique, tous ces lycéens qui manifestent pour le climat. On s'étonnait que la jeunesse ne soit pas vraiment présente pour s'occuper un peu de ce dérèglement climatique. Et là, on voit que ça bouge. Vous avez suivi ce mouvement ?
De plus en plus de mouvements éclosent un peu partout autour de ces questions-là depuis quelques années, je crois en tous les cas, j'allais dire depuis juste avant les accords de Paris et après. Et ça, je crois que c'est une bonne chose parce que de façon plus ou moins confuse, plus ou moins organisée, les gens s'aperçoivent que voilà, si on ne fait rien, on va dans le mur, il faut absolument faire quelque chose. Donc voilà, donc il y a plein d'initiatives un peu variées. Je pense que c'est quelque chose qui n'existait vraiment pas il y a 5-10 ans, ça c'est sûr.
C'était un entretien avec Jean-Louis Dufresne, climatologue, qui donnait une conférence débat sur le dérèglement climatique à la Maison des sociétés d'Arras. Il était invité par le collectif Arageois pour le climat.